Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julie, aujourd'hui maman de deux petites filles. Quarantenaire, c'est après une ablation de l'ovaire droit suite à un fibrotécome que Julie et son compagnon comprennent qu'il ne faut pas attendre s'ils veulent devenir parents. Après quelques mois sans succès, c'est lors d'une échographie de comptage folliculaire que Julie découvre une partie de l'iceberg. Il n'y a absolument aucun follicule à compter. Rapidement, Thomas, son amoureux, commence à faire pas mal de recherches et lui explique que selon lui, la seule chance qu'ils ont, c'est un don d'ovocytes. La PMA confirme leur diagnostic et leur recommande, au vu de leur âge et du timing, d'aller avoir recours à ce don à l'étranger afin de gagner du temps. Une endométriose, 5 ponctions, 4 transferts et 2 enfants plus tard, Julie vient nous raconter son histoire avec bienveillance et transparence. Sans plus attendre, voici ma rencontre avec Julie. Bonne écoute! Bonjour Julie et bienvenue sur le podcast.
Bonjour.
Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui?
Eh bien écoute, ça va pas mal. Et je suis à Lyon actuellement, là où j'habite.
D'accord. Ok, super. Alors, on va donc discuter avec toi de ton parcours pour devenir maman. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur toi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as et à quoi ressemble ton quotidien?
J'ai 44 ans. Je suis responsable de production dans le domaine du spectacle, mais actuellement au chômage depuis très peu de temps, avec pas mal de temps libre en ce moment. Voilà. Et j'ai deux petites filles qui ont 4 ans et 20 mois.
T'es peut-être au chômage, mais tu t'ennuies pas.
Pas du tout.
Très bien. Alors, donc l'objectif du podcast, tu le sais, c'est de libérer la parole sur toutes les questions de fertilité, de PMA. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu dans quel contexte est-ce que tu t'es lancée? Et puis, tout d'abord, est-ce que tu t'es lancée seule ou accompagnée?
Alors non, c'est un parcours en couple. En fait, voilà, j'ai rencontré mon chéri. Je l'ai rencontré il y a longtemps, il y a 15 ans quasiment. Mais on s'est mis ensemble en 2012. Donc à l'époque, j'avais 36-37 ans. Mmh. Et en fait, il se trouve que très rapidement, genre 2 mois après qu'on soit ensemble, on a découvert une grosse masse dans mon abdomen. Donc qui a donné lieu à pas mal d'investigations, scanners, IRM. Et en fait, les médecins étaient incapables de dire ce que c'était. Où c'était, si c'était digestif ou gynéco ou voilà, c'était assez flippant.
Et du coup
la seule solution c'était d'opérer. Donc j'ai été opérée un petit peu en urgence, enfin en urgence relative, c'était pas fait le jour même, hein, mais, assez vite. Et en fait il s'est trouvé que c'était qu'on appelle un fibrotécome.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une tumeur bénigne qui englobait complètement tout mon ovaire droit. Mais ça faisait genre la taille d'un gros pamplemousse, quoi.
Oh, la vache. Donc, ça a dû être hyper douloureux.
Et ça me faisait pas du tout mal, en fait. Je pense que ça a grossi très vite. Et donc, j'ai commencé à sentir un truc au début. Je me demandais ce que c'était. Puis ça, c'était assez mobile dans mon ventre. C'était assez flippant. Donc voilà, je vois mon généraliste en me disant j'ai un truc bizarre. Voilà. Bon, bref, une fois que le truc cancer machin était évacué, forcément ça allait mieux. Hein. Mais vu la taille de la tumeur, ils ont été obligés de retirer l'ovaire. Et du coup, bah voilà, 36, 37 ans, déjà un ovaire en moins.
Est-ce qu'ils ont reconnecté la deuxième trompe sur le premier, sur l'autre ovaire ou?
Non, ils ont dû enlever la trompe aussi.
Ah ouais, d'accord.
Donc, j'ai vite su que bah, il allait pas falloir traîner, quoi.
Ouais, d'accord. On te l'a dit à ce moment-là ou?
En fait, le truc, c'est que je n'ai pas été opérée par un gynéco. Je savais pas du tout ce que c'était ni où c'était. Donc, j'ai été opérée par un chirurgien gastro. Enfin, et lui, bah, il m'a juste dit, en gros, c'est pas catastrophique, normal. La nature est bien faite. Et globalement, souvent, ce qui se produit, c'est que l'ovaire restant, au lieu de déclencher une ovulation un mois sur deux, se met à compenser.
Ah ouais.
Et du coup, il y aura toujours normalement, il devrait y avoir une ovulation par mois, comme avant.
Bon, bah, très bien, alors, du coup, c'était assez rassurant.
Ok, bon, voilà. Bon, je prends quand même rendez-vous avec le temps de me remettre, hein, parce que bon, c'était une laparotomie, c'était donc, une grosse ouverture, plusieurs centimètres, c'était pas une cellulo, quoi. Et puis je prends rendez-vous avec une gynéco, alors pas celle qui m'avait suivie jusque-là, puisque j'étais un peu dubitative sur le fait qu'elle était passée à côté de ce truc, vu que je l'avais vue genre 3 ou 4 mois avant diagnostic. Voilà, mon médecin traitant m'oriente chez une autre gynéco que je vais voir, à qui j'explique. Alors, j'avais arrêté ma pilule avant l'opération, et puis j'avais pas souhaité la reprendre après parce que je voulais voir si ça se remettait en route, justement.
D'accord.
Si les cycles revenaient et tout. Et bon, voilà. Ils sont revenus de façon un petit peu anachronique quand même. On va dire, c'était pas super régulier.
Ouais.
Mais bon, il y avait aussi l'arrêt de la pilule et tout, donc, voilà. J'étais pas plus inquiète que ça, mais, donc voilà. J'explique à la gynéco, que voilà, on a un désir d'enfant, que il y a ce passif, voilà, au niveau opération et tout, et que bah j'ai besoin d'être rassurée, voilà.
On te dit après ton opération, il vaut mieux attendre tant de temps avant de recommencer les essais bébés, ou on te laisse un peu faire un peu comme tu veux?
Pas du tout parce que en fait, comme ils ont pas touché l'utérus lors de l'opération, il n'y avait pas de problème de cicatrisation comme il peut y avoir après une césarienne ou des choses comme ça. Quoi.
Ok.
Voilà, elle me prescrit un bilan hormonal et puis une écho pour vérifier que tout va bien. Et donc voilà, je fais donc le bilan hormonal à J3 du cycle, et en fait, il se trouve que déjà là, ce premier bilan, il était déjà pas terrible. La FSH était un tout petit peu déjà en dehors des clous. Je crois que c'est 12 le max, et genre j'étais à 13. Moi, je commence à m'inquiéter un peu, et elle me dit, donc je retourne la voir, et elle me dit non, c'est pas grave, mais bon, c'est sûr, faut pas traîner. Donc ben voilà, on se met au travail, comme on dit, hein. en se disant faut pas traîner.
OK. Et donc du coup là, ça fait combien de temps que t'es avec ton conjoint?
Bah ça faisait même pas un an, quoi. Mais bon, d'accord. Voilà,
tu savais que c'était le bon.
Je savais que c'était le bon.
Comment il s'appelle d'ailleurs?
Il s'appelle Thomas.
D'accord.
Et puis en fait, on se connaissait quand même depuis assez longtemps, tu vois. Donc, je pense que ça balayait aussi des interrogations sur. Voilà, on se connaissait très bien. J'étais quand même un peu dubitative sur ce taux qui était quand même assez haut. Et j'ai une copine qui me dit, écoute, va voir ma gynéco, elle est super. Donc, je prends rendez-vous avec une autre gynéco encore. Et là, donc le premier bilan hormonal, il était en avril 2013, donc. Et là, je vais voir cette gynéco en septembre, début septembre. Donc elle me dit, ouais, non, c'est quand même pas cool. C'est quand même un taux qui est pas bon.
Ouais.
Donc on va en refaire un de bilan. Et puis elle me rajoute le dosage de l'AMH, l'écho de comptage folliculaire, et puis un spermogramme, voilà. Et puis elle me dit, franchement, moi, je pense qu'il faut pas, vraiment pas perdre de temps, et quel que soit le résultat, ça coûte rien, je vais vous envoyer voir une consoeur qui est en PMA, parce que, y a quand même des chances pour que ça soit pas facile.
D'accord, ok. Donc là,
okay.
Toi, entre avril et septembre, t'avais continué les essais bébés.
Ouais, voilà.
D'accord, ok.
Sans qu'il se passe rien de spécial.
Ouais, ouais, ouais.
Et j'avais des cycles qui étaient voilà, qui était pas d'une super régularité, mais quand même qui, voilà, il y avait pas non plus des grandes pauses ou voilà. Sauf que je m'étais mis, alors ce qui n'était pas le cas avant, alors est-ce que c'était à cause de la pilule ou pas, j'en sais rien, mais à avoir des douleurs mais de malade, vraiment, voilà, c'est essentiellement au niveau des, au moment des règles, mais c'était ouais, vraiment super mal. Donc bon, tu vois ce qui se profile derrière. Et donc voilà, je prends du coup quand même super vite le rendez-vous avec la gynéco de PMA, qui donc on me donne rendez-vous fin octobre. Je fais à J3 tout là, l'écho,
les dosages,
et déjà écho, la nana elle me dit ben écoutez, voilà, moi là je ne vois rien, pas de
merde.
Et
comment
puis,
tu prends ça? Tu comprends à ce moment-là ce que ça veut dire?
Enfin, franchement, je comprends pas parce qu'en plus je baignais pas du tout dans le truc PMA, etc. Par ailleurs, j'étais dans une période de boulot mais monument. Enfin, voilà, j'avais vraiment le nez dans le guidon, donc même pas le temps de
vraiment digérer l'info.
16 heures, je travaillais 7 jours sur 7 quasi. Enfin, donc j'avais pas le temps de me poser quoi. Là-dessus, donc je fais le dosage et les résultats, c'est mon chéri qui est allé les chercher et puis du coup moi j'étais en déplacement, j'étais pas là et tout. C'est lui qui a vu les résultats. Et puis un jour au téléphone, tu vois, je le sentais vraiment bizarre et tout et puis je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit bah je suis allé chercher tes résultats de prise de sang.
Ah merde.
Et je lui dis c'est pas bon, il me dit non, c'est pas bon. Non. Et
c'était
et
quoi alors?
Là la FSH, elle était à 100.
Oh,
113.
Ah ouais. D'accord.
Et l'AMH, je me rappelle plus, mais c'était vraiment une cata.
Et alors, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas forcément ces deux hormones? Donc l'AMH, c'est la maturation des ovocytes. Enfin, est-ce que tu peux nous reprendre un petit peu, les expliquer?
Ouais,
les...
alors, j'essaie de me rappeler parce que j'ai même carrément oublié, tu vois, le temps fait son œuvre. L'AMH, ça permet de mesurer la réserve ovocytaire et donc le taux indique si voilà où on en est dans notre réserve. On est avec un stock d'ovocytes et donc qui se dégrade, enfin qui s'épuise au fil du temps, plus ou moins vite selon les femmes. Mmh. Et la FSH, si je me trompe pas, un peu pareil. En tout cas, quand elle est trop haute, c'est un signe de ménopause. Enfin, ou de pré-ménopause, enfin, voilà, d'insuffisance ovarienne et de problèmes, du coup, ovocytaires. Donc là, en gros, les taux, ils indiquaient que j'étais presque en ménopause, quoi.
Ouais, ouais, vache. Et t'avais quel âge? T'avais moins de 40 ans à cette époque-là?
J'avais 37 ans.
Ouais, ça.
Ce qui n'était pas le cas en l'occurrence parce que j'avais toujours des règles et tout, donc c'était pas
c'est pas clair quoi,
ménopause, mais disons que ça indiquait que c'était très 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 mal barré. Et donc là j'étais quand même bien effondrée et puis là-dessus bah lui il a les résultats aussi de son spermogramme qui était pas terrible non plus, donc avec tout, enfin tu vois, pas une énorme quantité, pas hyper mobile, beaucoup de tératospermie, voilà. C'était pas horrible dans le genre faut passer à un don de sperme, mais c'était clairement
pas
déjà
super
une
bon,
question de Fivixi, tu vois.
Mmh. D'accord.
Donc voilà.
Donc du coup là, vous n'avez pas encore vu le médecin, enfin vous avez pas encore vu le médecin avec vos résultats, c'est vous avez reçu ça et voilà ce que vous en comprenez quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, et puis mon chéri, il est scientifique, donc et puis moi j'avais vraiment, encore une fois, j'étais toujours dans cette période hyper chargée au boulot. Et donc lui tout de suite, il s'est mis à chercher, voilà, à essayer d'analyser les résultats tout seul en gros. Et voilà, et en fait, on a fait un chemin tout seul, on s'est vite très vite rendu compte que si on voulait être parent, ben ça serait la seule possibilité, ce serait le don d'ovocytes. On voyait pas bien comment avec une FIV, enfin comment moi avec les résultats, je pourrais arriver même avec une stimulation à quoi que ce soit.
D'accord.
Mais c'est un truc qu'on a fait vraiment tout seul.
C'est dingue. Donc tout ce cheminement à trouver des solutions, à interpréter les résultats, c'est Thomas et Julie dans leur salon qui sortent
et
un plan.
Devant Internet.
Une stratégie. Ok.
Et du coup, bah, fin octobre, donc voilà, les résultats, on va dire que c'était en gros mi-septembre, je me souviens pas exactement. Et fin octobre, on avait le rendez-vous en PMA. Et en fait, on y est allé. C'est super bizarre ce que je vais dire, et il y a plein de nanas qui vont halluciner, mais on y est allé flipper de se dire, pourvu qu'elle nous propose pas une FIV. Pourvu qu'elle nous dise, qu'elle nous propose pas de nous accrocher à un truc. Parce que dans notre tête, on avait cheminé tellement vite.
Ouais, vous étiez prêts, quoi. Vous étiez prêts pour passer au don et.
Ouais, on était prêts. Et surtout, on se disait, si on fait des FIV, on va s'épuiser.
On va perdre du temps.
Ça va être un traitement de malade pour le corps, et pour un résultat qu'on estimait déjà pourri, quoi.
Ouais, d'accord.
Sans être médecin, ce qui était un peu présomptueux de notre part, mais. Ouais. Et donc, on se disait, pourvu que. Et en fait, voilà, donc on arrive, elle nous reçoit, voilà, on lui donne les résultats, enfin, tous les examens et tout. Mmh. Et puis voilà, elle lui dit bon écoutez, je vais être très cash. Hein. Il y a deux façons pour vous d'être parents là, des résultats, c'est le don d'ovocytes ou l'adoption.
Ah ouais. Okay.
C'est même pas la peine de. Alors naturellement, vous avez 0,5% de chance que ça marche. Moi, je préconise pas de vous lancer dans une FIV. On peut le faire si vraiment vous y tenez, mais très franchement, je pense que ça ne marchera pas.
Donc du coup, vous êtes à peu près bien accordé sur ce que vous aviez compris des résultats et voilà.
Ouais,
ok.
Tout à fait. Et puis là, elle nous dit et don d'ovocytes, je vous déconseille fortement de le faire en France.
Ah ouais, direct.
À cause des délais. Là, sur le Sécos de la région, il y a 3 ans à peu près d'attente.
Oh,
vu votre âge, c'est un peu con d'attendre 3 ans. Vous auriez 20 ans, 25 ans, je dis pas, mais en gros, celle-là, ça serait un peu dommage.
Ouais.
Donc elle dit, et par ailleurs, on n'est quand même pas hyper bon. Les donneuses en France, il y en a pas beaucoup, et elles sont souvent âgées, entre guillemets, parce que c'est celles qui donnent, c'est celles qui sont sensibilisées à la question, et souvent, c'est parce qu'elles ont des copines, des cousines, des sœurs qui sont en galère et donc et qui sont, on va dire, de plus de 30 ans, 35 ans, quoi.
Mmh.
Et du coup, celles qui donnent, elles ont pas des ovocytes première jeunesse, on va dire. La plupart, je veux pas faire des généralités, mais, et puis en plus à l'époque, maintenant la loi a été assouplie, mais à l'époque il fallait encore être soi-même maman pour donner.
Mmh.
Et donc forcément voilà, c'était potentiellement des femmes qui avaient fait leurs enfants, qui n'avaient pas 20 ans. Et donc elle nous dit l'avantage de d'autres pays européens, c'est que ils ont des dons de gens beaucoup plus jeunes, d'une part, d'autre part, comme c'est payant, ils investissent beaucoup plus dans la recherche, et ils ont des sites qui sont un peu plus élevés que les nôtres.
Ah ouais, tu vois, moi j'aurais pensé que au délai pour aller à l'étranger, mais j'ai pas du tout pensé au reste. D'accord. Et elle vous recommande un pays en particulier ou?
Alors du coup, nous, on a fait bien cheminer tout seul. On s'était un peu perdu aussi parce que comme c'est effectivement ça a un côté un petit peu business commercial et tout, quand tu cherches tu trouves des tas de cliniques, mais comment tu choisis quoi, parce qu'ils se vendent tous d'être les meilleurs, oui un bébé à la clé tout ça, mais nous on était un peu perdus et donc là du coup je lui demande, je dis mais comment on fait pour choisir, elle nous a donné 2 noms de médecins, du coup ça voulait dire aussi
super.
Deux noms de cliniques, mais
Ouais.
Carrément des médecins, en fait des médecins Génial. Français qui travaillent. Il y avait une à Barcelone et une à Valence en Espagne. Et elle nous dit c'est 2 médecins que je connais personnellement, avec qui j'ai travaillé et qui sont très sérieux et qui sont français. Donc voilà, moi je vous à vous de choisir. J'ai pas de préférence entre les deux. Les deux sont très bien. Vous voyez comment vous le sentez. Donc voilà, on était super soulagés parce que c'était exactement ce qu'on attendait en fait. C'était
D'accord.
Un conseil. Et puis par ailleurs, elle nous dit si vous poursuivez dans cette démarche, moi je vous suis par ailleurs. Donc le principe c'est que si vous allez dans ces cliniques, ils vont vous prescrire un traitement et moi je vous ferai les ordonnances pour ce traitement. Je vous
ah génial, donc elle s'engage en plus à te voilà. suivre voilà. En France.
Je vous fais tout le suivi.
Bon super, donc finalement donc vous avez, on vous propose une stratégie sur laquelle vous étiez déjà bien renseigné, vous êtes rassuré puisque vos interprétations étaient les bonnes. Et alors, je voudrais juste voir un peu. Donc là, je comprends qu'à ce moment précis, vous êtes content, enfin vous êtes rassuré. Ok, c'est bon, on y va. Entre donc ces premiers examens et ce jour-là, ça a été quoi votre cheminement
Je veux surtout parler pour moi parce que même si on a échangé avec Thomas, mais c'est compliqué de parler à la place de.
Bien sûr.
En fait, ça a été assez clair. Autant je pense que sur l'adoption, j'aurais vraiment eu besoin de temps pour voilà.
Cogiter, pour digérer et accepter. Ouais.
Pour digérer et accepter. Autant là, je sais pas comment dire. J'ai toujours vu ça comme un don d'une cellule, quoi. Et que pour moi, le fait de porter un bébé, un embryon, un fœtus, un bébé, de vivre une grossesse, c'était ça qui faisait de toi une maman. Très peu eu de questionnements sur les gènes, mon patrimoine génétique, la lignée familiale, la ressemblance, etc. Évidemment que je me suis posé des questions, hein. Et évidemment que ça a été un renoncement, et non pas que je me trouve magnifique ou quoi que ce soit, mais forcément qu'on a envie d'un bébé qui ressemble aux deux parents, qui a un peu de chacun, qu'on a envie de oh là là, il te ressemble quand t'étais petite.
Mais oui,
etc.
Non mais bien sûr.
Mais je sais pas, c'est quelque chose qui est passé vraiment je sais pas comment, pourquoi c'est allé aussi vite, pourquoi je me suis approprié cette idée aussi vite, mais très vite ça a été clair dans ma tête de à partir du moment où il sera dans mon ventre, ça sera mon bébé, quoi. Et donc le fait que ce soit l'ovocyte de quelqu'un d'autre au départ, ça me posait vraiment mais aucun problème.
D'accord. Bon, bah super.
Et pour Thomas, ça a été un petit peu pareil. Voilà, lui m'a dit, je pense que si ça avait été dans l'autre sens, et je pense là vraiment que c'est une inégalité, si on doit faire appel à un don de sperme, puisque le père ne vit pas une grossesse de la même manière qu'une mère, forcément.
Bien sûr.
Et je pense que c'est beaucoup plus dur, du coup, pour le papa de faire le deuil de ses spermatozoïdes, quoi. Parce que il a pas ce truc de la grossesse, quoi.
Ouais, il a pas cette connexion où il attend un bébé, il le sent et
du bébé
ouais,
qui grandit en soi et que tu nourris finalement et que c'est ton corps qui le fait grandir et tout ça.
Puis t'as l'épigénétique aussi, même si tu donnes pas
et en plus il y a l'épigénétique, tout à fait. Alors ça c'est un truc vraiment, quand le médecin m'a dit un même embryon implanté dans le corps d'une femme et implanté dans le corps d'une autre femme ne donnera pas le même bébé. Le bébé sera différent en tout point de vue. Ça m'a vachement parlé. Voilà, de savoir que mon corps, allait l'influencer, enfin, allait influencer le développement du bébé.
Ouais, non, c'est hyper
fort, ça m'a aussi vachement parlé et rassuré.
Ouais, bien sûr, je comprends.
Voilà. Et du coup, après aussi, ce qu'elle nous a appris, la gynéco en PMA, c'est elle nous a fait un papier du 100% de stérilité, et elle nous a appris que qu'on pouvait, alors parce que c'est très cher, hein, les démarches du coup à l'étranger, mais que on pouvait obtenir un remboursement de la sécurité sociale partiel, mais quand même.
Ouais, non, c'est pas négligeable, c'est clair.
Voire de la mutuelle. Selon certaines mutuelles. Et donc il fallait remplir un dossier. Donc le principe c'est que les citoyens européens doivent avoir en gros égalité de traitement, accès aux mêmes soins.
Ah génial.
Soin, on va dire.
D'accord.
Et donc il faut faire une demande auprès de la Sécu de prise en charge de soins à l'étranger. Donc c'est en amont qu'il faut faire cette demande. Donc il faut remplir tout un dossier en envoyant le devis de la clinique, en envoyant un courrier de la gynéco qui explique pour quelles raisons, médicalement parlant, on est obligé d'avoir recours
parce à qu'on est à l'étranger.
Et pourquoi à l'étranger. Donc voilà, elle a expliqué mon insuffisance ovarienne et le fait que en France les délais étaient trop longs. On doit faire une lettre de motivation de couple. Voilà, c'est un peu spécial.
Ah ouais, c'est quoi ça?
D'écrire une lettre. Bah, faut écrire pourquoi tu veux être parent, quoi. Enfin, c'est bon, c'est.
Ouais, c'est space.
Voilà, c'est un peu bizarre, okay. Je trouve. Mais bon. Et puis joindre les résultats des examens qui justifient le recours au truc. Et donc après, la Sécu a 15 jours pour examiner le dossier et se prononcer. Donc on a eu l'accord. Il n'y avait pas de raison qu'on l'ait pas. C'est, alors, si t'as fait 4 FIV en France, globalement, ils peuvent dire non. Puisque c'est considéré comme, du coup, une 5e FIV, tu vois.
Ouais, d'accord.
Et la France remboursant 4 FIV, bah, c'est un peu pareil. Pareil, si tu as plus de 43 ans, c'est pas possible.
Ah ouais.
Puisque la France rembourse la PMA, jusqu'aux 43 ans de...
Ah ouais, je savais pas ça.
En France, tu peux pas avoir de traitement, enfin, si, tu peux, mais à tes frais.
D'accord.
Au-delà de 3 ans. Donc voilà, si tu respectes les critères français entre guillemets, bah du coup tu as le droit à cette prise en charge. Donc voilà, on a eu l'accord. Donc ça c'était après qu'on a fait cette demande. D'abord on a pris rendez-vous à la clinique en Espagne. Je sais pas si j'ai le droit de dire le
nom. Bien sûr. Bah si, au contraire, je pense que ça peut aider certaines.
Donc c'est la clinique IVI. Donc les deux médecins qu'elle nous avait conseillés étaient dans la clinique IVI qui a plusieurs antennes dans plusieurs villes en Espagne.
Ok.
Et nous on a choisi Barcelone parce que c'était plus facile d'accès d'une part et puis parce qu'on aimait bien la ville. Donc voilà, on a appelé et on a eu un rendez-vous assez vite puisque on avait eu rendez-vous mi-décembre.
Ouais, donc finalement ça tout avance assez rapidement assez entre de septembre à décembre.
Donc, voilà. Donc le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous vraiment pour rencontrer le médecin, faire quelques examens, voilà, remplir un dossier, recevoir le devis, accepter. Voilà, on peut repartir avec le devis, on n'est pas obligé de signer sur place. Mais...
Ouais.
Donc voilà, on est allé à Barcelone. Donc mon chéri, il a fait un recueil de sperme puisque eux, ils refont un spermogramme. Voilà. Et puis par ailleurs, il congèle ce recueil pour au cas où le jour de la fécondation, si jamais pour x ou x raison il peut pas se déplacer, ouais. Ou pour x raison il est malade et que du coup la qualité spermatique risque d'être altérée ou je sais pas quoi, ils ont cette réserve.
D'accord.
Et puis donc le médecin nous a reçus. Alors c'est assez hallucinant, hein, c'est des cliniques mais c'est super clean. Super propre. Enfin, par rapport aux cliniques en France, je trouve que c'est un peu le jour et la nuit. Un peu l'impression d'être dans un hôtel. Voilà. mon chéri m'a dit pour le recueil, les conditions d'hygiène, c'était le jour et la nuit aussi. Et puis voilà, donc il nous a reçus, il épluche un peu tout le dossier. Et puis voilà, il nous a dit oui, effectivement, on était, on va dire, les candidats éligibles. Et que c'était normal de recourir à ce type de traitement. Donc, il nous a expliqué un peu comment ça se passait dans la clinique. Donc, voilà, le principe d'abord, il represcrit une série d'examens, de prise de sang à faire, voilà. Et ensuite, une fois qu'ils ont tous les résultats, ils partent en quête d'une donneuse qui soit compatible, alors d'une part en termes de groupe sanguin, pour que ça pose pas de soucis au niveau de la grossesse, si grossesse il y a, et puis alors ils cherchent pas forcément une donneuse qui a le même groupe que la maman, il faut juste que ce soit compatible.
D'accord.
Et puis sinon, c'est comptabilité, voilà, c'est la compatibilité, on va dire, donc on remplit une fiche avec la morphologie, taille, poids, type.
Je cherche quelqu'un qui a des traits caractéristiques comme les tiens, quoi, un peu.
Voilà. Donc, type de peau, cheveux, couleur, frisé, pas frisé, tache de rousseur, etc. Il faut fournir des photos aussi, j'imagine, pour vérifier si ça matche un peu.
Que tu t'es pas cru blonde aux yeux bleus d'1m90.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et donc voilà, on est reparti. Voilà, il nous a expliqué tout le protocole, donc comment ça marche, les traitements, et puis les délais à peu près prévisibles avant de trouver la donneuse. Le fait que, bah, quand ils trouvent une donneuse, c'est à nous, entre guillemets, de nous plier à ces contraintes, puisque eux, ils les forcent pas, ils leur disent pas, bon, bah, c'est tel jour qu'il faut simuler pour arriver à une ponction tel jour. C'est plutôt elles qui disent, bah, voilà, moi, j'ai 15 jours de vacances, ça m'arrange de le faire à ce moment-là. Et donc, ouais, ils adaptent le traitement et de la donneuse et de la receveuse pour que ça matche.
Voilà. On vous, annonce quoi, du coup, comme délai?
Alors, à ce moment-là, il nous annonce un délai, en gros, si je me souviens bien, de 2 ou 3 mois.
Oh, ça va.
Ouais, ce qui est, alors je crois que ça s'est un peu allongé après, par la suite. Mais à ce moment-là, c'était à peu près 2 ou 3 mois. À partir du moment où t'as renvoyé tous les résultats des examens qu'il avait prescrits. Et puis, ils annoncent un taux de réussite. Voilà, si mes souvenirs sont bons... alors, ils implantent que des J5. Ils poussent tous les embryons à J5. Et ils implantent 1 ou 2. Un peu... dans mon cas, c'était à nous de choisir. Ils poussent pas à 2, loin de là. Ils ont plutôt tendance à dire à 1, mais là, ils m'avaient dit, bon, sur une première grossesse, enfin, une première tentative, à votre âge, voilà, vous êtes pas super vieille, machin. Ça peut se tenter à 2, mais voilà, faut être prudent. Sachant que le taux, alors, je me souviens plus, je crois que le taux de réussite était de grossesse aboutie, hein, pas de prise de sang positive ou, de naissance, on va dire, avec un bébé vivant et tout ça, était de 38% quand il y avait 2 embryons et je me souviens plus, 28 peut-être.
D'accord, ouais, donc le fait d'en mettre 2, c'est vrai ce qu'on dit souvent, même si les 2 ne persistent pas toute la grossesse, le fait qu'il y en ait 2, en fait, ça stimule l'accroche du second, quoi.
C'est ça. C'est ça. Okay. Mais il y avait quand même un taux de probabilité de jumeaux qui était assez élevé aussi.
Hein. Ouais, ouais. D'accord. Oui, bah, oui, bien sûr.
J'ai pas souvenir, mais.
Et alors, avant donc de vous lancer dans tout ça, vous avez quand même parlé coûts aussi. Donc, tu nous as parlé du dossier que tu avais monté pour la sécurité sociale. Tu peux nous dire un peu de quel genre de coûts on parle sur un don d'ovocyte en Espagne?
Alors ça dépend vraiment des cliniques, je crois. Il y a des variables, voilà. Nous, en gros, une tentative, ça doit, sans parler des frais de voyage, d'hébergement qui vont se rajouter, pour ce qui est dû à la clinique, on va dire, c'était autour de 7 000 euros, un peu moins. Je pense que c'était 6 500, 7 000 euros pour une tentative, en sachant qu'après, si t'avais des ovocytes, des embryons congelés et que tu y retournes, le transfert après d'embryon était autour de 1500 euros. Et la sécu, c'est un forfait qui est autour de 1500 euros. Donc, c'est loin de rembourser
bien sûr, même pas la moitié.
Totalité du truc. Et ils remboursent en plus les frais de voyage, mais uniquement de madame.
Sérieux?
Ouais, il faut bien qu'il aille donner son sperme, mais c'est gratos. Donc, c'est complètement ridicule, mais bon.
Bon, c'est déjà pas mal quand même, en tout cas, que tu puisses aller faire ça à l'étranger, bon, et que t'aies une aide. Ça. Ouais, non, c'est clair.
Je trouve que ça légitime aussi le truc, parce qu'en fait, je me suis rendu compte après, en parlant de ça avec différentes personnes, je pense notamment par exemple à mon ostéo, à qui j'en avais parlé, qui pensait que j'allais à l'étranger parce que c'était interdit en France. Et donc, j'avais dit, non, mais c'est pas du tout interdit, le don d'ovocytes en France. La preuve, la sécu le rembourse. Enfin, le rembourse partiellement, mais et je trouve que ça légitime un petit peu le truc, même s'il y a des gens qui sont un peu réfractaires à la chose.
Ouais, non, c'est
voilà,
clair.
Ben voilà, on est reparti. Alors, bon, on n'avait pas, même si c'est un certain coût et voilà, c'est un petit sacrifice, mais voilà, compte tenu de nos situations professionnelles, ça nous a pas mis dans le pétrin, je veux dire. D'envisager cette dépense, voilà, il y avait rien à payer d'avance, tu payes vraiment
ça, c'est
quelques
bien.
Jours avant, en fait. Et donc voilà, ben après commence l'attente de la donneuse, et donc alors ce qui est assez paradoxal, personne en PMA, c'est que ben on nous met sous pilule pour en fait pouvoir contrôler nos cycles et faciliter la synchronisation après, une fois que la donneuse est trouvée.
D'accord.
Et éviter de devoir attendre. Bon, vous en êtes tout de votre cycle là. Ok, bon, ben, on va attendre que vous ayez vos règles et machin.
Ouais.
Donc là, en fait, le fait d'être sous pilule, ça leur permet de contrôler un petit peu les choses. Enfin, on a attendu, en gros 3 mois.
D'accord.
À peu près ce qu'ils avaient dit. C'est fin mars que qu'ils nous ont contactés pour nous dire ça y est, on a trouvé une donneuse compatible. Et alors là, c'est drôle parce que ça va à toute vitesse, quoi. Toi, t'es dans l'attente, ça devient vite infernal, quoi.
Ouais, bah ouais.
Ça arrive, tu scrutes limite tes mails tous les jours. Et là, en fait, bah, non seulement ils t'annoncent ce qu'ils ont trouvé, mais que 3 jours après, il faut que tu fasses une piqûre pour bloquer tes ovaires, que 2 jours après, je me souviens pas dans le détail, hein, mais que, voilà, faut que t'arrêtes ta pilule, et puis que au premier jour du, enfin, entre le premier et le troisième jour du cycle, il faudra que t'ailles voir ton gynéco pour faire une écho, une prise de sang, et puis commencer si tout va bien le traitement. Enfin, voilà, ça s'accélère d'un coup, quoi. Je prends le bas de combat, appeler la gynéco, trouver le rendez-vous, pas forcément le rendez-vous, mais déjà qu'elle prescrive les médocs.
Okay.
Voilà, donc après, au bout de 10 jours de traitement, donc à chaque fois, faut envoyer les résultats reçus dans la journée, les résultats de peau et les résultats de prise de sang, et qui disent, ok, tout va bien ou pas.
Ils sont assez réactifs, d'ailleurs, là-dessus, parce que c'est vrai que ça peut être un peu une source d'inquiétude avec la distance et tout. T'as des nouvelles assez rapidement.
Tu vois, ça, j'avais pas précisé. En fait, en même temps qu'on a rencontré le médecin là, au premier rendez-vous, on s'est vu attribuer une coordinatrice qui est notre interlocuteur principal sur la durée du parcours, qui parle français qui est vraiment la personne avec qui on est en contact. Et du coup, oui, sur les périodes de... Alors, quelquefois, quand t'as une question en dehors du truc, ils peuvent être un peu longs à la détente, et c'est assez énervant. Parce que pour eux, il n'y a pas d'urgence, en fait. Quand tu demandes, mais vous en êtes où de la recherche?
Bien sûr.
Par contre, quand t'es en phase de traitement, la réponse, elle est hyper rapide.
D'accord. Bon, c'est chouette.
Ils répondent dans les 2-3 heures. Donc, voilà, on envoie par mail les résultats, et enfin, voilà, ils donnent la suite au compte-goutte un peu du protocole, quoi. Donc là, après 10 jours de stimulation, bah, re-écho, reprise de sang, et ensuite, bon là, sur un transfert en frais, on dit, faut attendre aussi de voir si la donneuse réagit aussi, quoi, et si elle, ses ovocytes, ses follicules se développent. Et alors là, c'est du tac au tac aussi, c'est-à-dire qu'une fois que toi t'es prête, et ben voilà, un jour ils nous ont appelé en nous disant, bon bah voilà, ponction et du coup fécondation. Dans 48 heures. Là, c'est l'excitation à son comble, quoi. Voilà, poser en urgence une semaine de congé, parce que, bah, du coup, transfert à J5, ça veut dire... voilà, là, on avait prévu d'y aller, vraiment, de passer toute la semaine sur place.
Mm-hmm.
Donc, là, chercher un appart, un avion...
Ouais, toute la logistique. Oh. Alors, question, puisque la sécurité sociale donc t'aide a posteriori à financer ce projet à l'étranger, est-ce que du coup tu bénéficies de la loi sur la PMA qui fait que ton employeur doit te laisser prendre le temps qu'il te faut pour faire tes traitements?
On aurait même pu demander vu qu'on avait l'accord de la Sécu pour un traitement à l'étranger, pas mon conjoint, mais j'aurais pu demander un arrêt de travail.
Ah ouais, mais tu l'as pas fait.
Je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie sur le coup de que mon employeur soit au courant.
D'accord.
J'avais pas envie de voilà. Et j'avais la possibilité de prendre ces congés à ce moment-là. Ça tombait à un moment où c'était vraiment facile, quoi.
D'accord.
Et voilà. Et on est parti, à la fois un peu en mode vacances, tu vois, à se dire bon, on va passer une semaine à Barcelone. C'était le mois de mai, début mai, tu vois, il faisait beau. Et puis en mode putain, on va faire un bébé. Tu vois, c'est un peu bizarre comme.
Oui, c'est clair.
Comme sentiment.
J'imagine.
Et donc premier jour, on va à la clinique, lui pour faire le recueil, moi pour faire une dernière écho sur place. Mm-hmm. Entre parenthèses, en Espagne. Quand tu te fais examiner par un gynéco, tu passes une blouse.
Ah, c'est pareil aux États-Unis.
Et ils mettent un drap et tout. Et je trouve ça quand même tellement mieux, le truc à poil des Français, là. Les pieds dans les étriers, aucune intimité, aucune pudeur et tout.
Ouais.
Et là, vraiment, alors même si, forcément, il a quand même, c'est quand même une écho endovaginale et tout ça, mais Et je trouve que quand même, ça change un peu la donne.
Non, ça, c'est sûr.
Et donc, voilà. Et là, ils nous disent, bon, bah, ok, tout va bien. Donc, tous les voyants sont verts. Donc, vous pouvez commencer la progestérone, voilà, pour finaliser la préparation.
Génial.
Hormonale.
Mm-hmm.
Et donc, et on vous tiendra au courant, demain de combien il y a d'embryons fécondés. De vos sites fécondés. Et puis ensuite, au bout de 3 jours, de combien il en reste. Et puis ensuite, on vous appellera pour vous dire, le transfert, ce sera dans 5 jours. Et on vous dira quelle heure. Donc,
ok. Okay.
Voilà. Et donc, on part en mode touriste. Voilà, bon, avec le flip quand même, tu vois. Moi, je pouvais pas quitter mon téléphone des yeux.
Ah, j'imagine, tu penses qu'à ça, quoi. Mais surtout que t'es déjà là-bas, enfin, ouais.
Ouais, là, ils nous ont appelé le lendemain. Alors, j'ai plus sur cette tentative-là le nombre et tout, mais si je me souviens bien, il y avait 10 d'ovocytes qui avaient été ponctionnés et 9 fécondés. Et puis après, au 3e jour, je crois qu'il en restait 6. Et voilà, donc ils nous disent rien.
Donc pas mal.
Et là, gros coup de massue, le jour du transfert. Donc ils nous avaient donné l'heure du transfert, qui était, si je me souviens bien, en début d'après-midi.
Mm-hmm.
Et à 11h, téléphone de la clinique qui nous dit, madame, ben voilà, on est désolé, mais on va pas faire le transfert parce que les embryons sont de trop mauvaise qualité et ça vaut vraiment pas le coup. Il y en a encore qui sont vivants, mais c'est voué à l'échec.
Ah merde, tu m'étonnes.
Et
surtout que vous étiez resté ou
préparé. Ouais, c'est ça. Et autant je pense qu'on s'était préparé à, ça peut être au bout de 15 jours une prise de sang négative. Ça pourrait être positif et puis ensuite une fausse couche, mais ça, je pense qu'on l'avait même pas envisagé.
Bah ouais, tu m'étonnes.
Pas de transfert. Donc là, mais la claque, le sentiment de d'être allé pour rien, voilà, on était, enfin moi surtout, pas belle à voir, vraiment, mais au bout du truc, quoi.
Bah.
Et puis ils nous disent bon ben en plus le docteur est pas là, du coup c'était pas lui qui allait faire le transfert, celui qui nous suivait, quoi. Il est pas là aujourd'hui, donc je peux même pas vous le passer. Le médecin qui vient de décider de pas faire le transfert et le biologiste, il parle pas français. Voilà, mais bon, promis, le docteur vous appelle d'ici un jour ou deux. Donc ben voilà, on est rentré.
Ah, je suis sûre. Ouais.
Tout dépité et tout, dans l'incompréhension la plus totale.
Ouais, surtout que vous avez aucune information,
voilà,
quoi.
Trouve,
ouais.
Sur le coup, on n'en a aucune. Moi, j'étais con. Je me disais, mais comment ça se passe et tout? Et alors, du coup, on a payé. Ça veut dire que c'est 7000 balles foutues en l'air. On avait adhéré à une association qui s'appelle Maya, qui est une asso d'aide aux personnes infertiles. Pas forcément que au couple, parce qu'ils aident aussi beaucoup les mamans solo et tout. Et sur lequel il y a un forum assez actif et donc qui est privé et dans lequel j'étais assez présente et du coup j'ai raconté ma mésaventure et en fait là je me suis rendu compte que ça arrivait, qu'on n'était pas les seuls et en fait j'étais dans un premier temps rassurée de pas être les seuls et dans un deuxième temps aussi les nanas m'ont dit mais attends non tu vas pas payer hein.
Ouais.
Enfin, tu vas pas payer, t'as payé, mais la prochaine tentative, normalement, ils vont pas te la faire payer.
Ouais, d'accord.
Et puis surtout, ils m'ont ouvert les yeux sur, attends, dis-toi que une clinique moins scrupuleuse, les embryons, ils te les auraient transférés. Et ils auraient touché l'argent. Là, t'as de la chance quelque part, parce que ils sont honnêtes, ils te disent, c'est voué à l'échec, on le fait pas.
Ouais.
C'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle, et voilà. Donc après, on a eu le médecin a effectivement appelé 2-3 jours après en disant écoutez voilà je suis vraiment désolée et surtout il dit je suis très embêtée parce que je peux pas vous dire j'ai pas d'éléments pour vous dire pourquoi ça a pas fonctionné.
Ah ouais, donc tu sais même pas ce que vous pouvez changer.
Voilà, il dit en gros on dit que dans les si la dégradation les embryons se dégradent et commencent à tomber les uns après les autres dans les 3 premiers jours, c'est probablement un problème ovocytaire. Et si c'est dans les J3, 4, 5, c'est plutôt un problème masculin. Et il dit, là, le problème, c'est que, en gros, un peu dès le début, ça a cafouillé. C'était pas terrible. Et puis, ça s'est accentué après. Mais il dit, c'est pas clair, quoi. C'est pas,
ouais,
je peux
d'accord.
pas dire c'est la faute de la donneuse et des ovocytes ou c'est la faute du sperme de votre voilà je suis désolée machin mais en gros faut repartir à zéro.
Ah, il faut rechercher une donneuse, tu peux pas, d'accord.
Du coup je pense que la donneuse elle est éliminée ouais. des courses, quoi. Parce que,
bah, d'accord.
Ça n'a pas marché. Voilà, recherche, trouvé assez vite. Mais il se trouve que moi, ils m'ont trouvé parallèlement un kyste à l'ovaire.
Encore.
Et que ma gynéco, du passif, m'a dit non, mais il faut opérer. Je vous laisse pas repartir sur un traitement vu ce que vous avez vu avant. Donc ça a décalé. Du coup, j'ai eu une IRM qui a permis de diagnostiquer triose. En gros,
ils ont mis le temps quand même.
Ouais, c'est clair. Ce qui permet d'expliquer un peu toute cette l'insuffisance ovarienne et la ménopause précoce, c'est à la fois, je pense que l'ovarectomie a précipité un peu le truc, hein,
Bien sûr.
Plus l'endométriose, donc voilà, je passe un peu vite, je me fais opérer par Célio, ce qui permet de nettoyer l'endométriose aussi, et puis d'enlever le kyste. Et puis on est reparti sur. Alors du coup, parce que ils pouvaient pas annuler la ponction de la donneuse. Comme je disais, ils privilégient toujours le confort de la donneuse. Mais par contre, ils m'ont dit, mais vous inquiétez pas, du coup, on va faire avec des ovocytes vitrifiés. On va vitrifier les ovocytes, on va faire la ponction comme elle était prévue en début septembre. Mais on les vitrifie, on les garde pour vous. Dès que vous êtes prête, après l'opération, le fait de vitrifier, ça permet aussi de simplifier les choses au niveau logistique. Il n'y a pas cette incertitude de quand est-ce qu'on doit partir et tout. Ça peut être tout planifié à l'avance. Donc, en janvier 2015, après 8 mois d'attente depuis le transfert annulé, 8 mois qui sont très très longs, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Enfin, on peut partir sur un transfert. Donc cette fois-ci, mon conjoint se rend tout seul à Barcelone pour le recueil. Donc il fait l'aller-retour sur 2 jours. Et puis on y retourne ensemble pour le transfert. Donc on a il y a 12 ovocytes qui avaient été vitrifiés au mois de septembre. Après fécondation, il en reste 10 ou 11, je me souviens plus exactement. Et ensuite, au moment du transfert, donc qui se fait cette fois-ci avec une médecin espagnole. Donc même s'il y a une infirmière dans la salle de transfert qui traduit, c'est vrai que on la connaît pas du tout, quoi. J'ai pas un souvenir extra de ce transfert dans le sens où ça se passe pas mal, mais à un moment donné, on allait parfois, j'ai eu la sensation, et surtout mon conjoint a eu la sensation qu'elle galérait un peu à déposer les embryons. Elle insistait auprès de l'infirmière par rapport à qui faisait l'échographie en même temps, comme si elle voyait pas bien l'utérus ou les mètres. Ça se passe quand même pas mal du tout. On est assez impressionné par les conditions d'accueil, de transfert, qui sont vraiment très très clean. On se croirait vraiment dans un bloc opératoire, tout le monde en charlotte. Moi je suis sur un brancard. Mon conjoint est habillé de pied en cap en bleu. Moi aussi, moi j'ai une blouse chirurgicale. Donc on sait qu'on a 4 blastos, ce qui est quand même pas mal du tout. 2 donc qui sont vitrifiés, 2 qui sont transférés, et puis 3 qui sont en observation. Les autres se sont pas développés. Donc les 3 en observation, ils les gardent un jour de plus pour voir comment ils évoluent. Pour l'instant, ils sont pas encore blastos, on va dire. Et selon l'évolution, ils les vitrifieront ou pas. Donc voilà, et après, une fois le transfert effectué, on retourne dans la chambre et on reste 15-20 minutes le temps de se reposer, de se rhabiller et puis on ressort.
D'accord, et alors cette fois-ci, vous repartez tout de suite en France, donc comme tu le disais, ou vous restez un petit peu en Espagne ?
Donc cette fois-ci, nous sommes arrivés à Barcelone la veille du transfert et on repart le lendemain du transfert en avion. On a passé 2-3 jours tranquilles, un peu de visite, la plage, Et puis au retour, je reprends le boulot, mais sans forcer, on va dire. J'avais notamment des déplacements en avion prévus, et que j'ai préféré annuler pour éviter, même si les médecins m'avaient dit que ça posait pas de soucis, moi, pour mettre toutes les chances de notre côté, voilà, j'avais préféré qu'on restait tranquille, on va dire. Mais j'ai quand même repris le boulot.
D'accord, donc là, les 10-15 jours les plus longs qui commencent, comment est-ce que ça se passe, du coup, cette attente? Est-ce que tu fais des tests, ou un test d'ailleurs maison avant la prise de sang, ou est-ce que tu tiens le coup de l'attente? Comment est-ce que vous gérez tous les deux?
Malgré le boulot, c'est sûr que les 10 jours d'attente sont assez longs, comme pour tout le monde, dans ces cas-là. Mais voilà, je suis, si je me souviens bien, assez confiante sur, on va dire... les sept premiers jours, plutôt enthousiaste, plutôt style de ça va marcher, je le sens bien et tout. Petit coup de mou après, les derniers jours, mais globalement on était plutôt confiants quand même. Et voilà, ensuite, on voulait absolument être ensemble au moment des résultats de la prise de sang. J'ai pas fait de test du tout, de test pipi. On voulait absolument être ensemble, donc le matin j'ai fait ma prise de sang. Au lieu de demander les résultats par internet, on a dit qu'on viendrait les chercher. Et du coup, en rentrant du boulot, on est tous les deux allés les chercher, et on a ouvert l'enveloppe à la maison. Et voilà, grosse douche froide, parce que c'était négatif, sans aucun doute possible. Du coup, ça a été un peu dur à encaisser, quand même, hein. Et c'est là qu'on se rend compte quand même, on y croyait un petit peu. Et puis voilà, quelques jours après, le médecin espagnol nous a appelé, enfin le médecin français, mais de la clinique espagnole, nous a appelé pour faire un point. Voilà, il était pas très inquiet dans la mesure où c'était finalement un premier transfert, compte tenu du fait que voilà, ça avait donné 4 blastos de très bonne qualité, les 3 qui avaient été laissés en observation n'ont pas été conservés finalement. Il a estimé que probablement par rapport à la première tentative pour laquelle il n'y avait pas eu de transfert, le problème venait sans doute des ovocytes, puisque cette fois-ci on avait quand même eu 4 beaux embryons. Donc voilà, pour lui c'était plutôt faute à pas de chance, et si jamais il y avait de nouveau un échec, là il faudrait peut-être faire des examens complémentaires, mais pour l'instant voilà. Pour lui, tout était encore normal, on va dire. Et de notre côté, voilà, faut se relever, mais voilà, on se relève. Et puis, s'ils ont confiance, on va essayer de faire confiance aussi.
D'accord. Donc là, on te propose un cycle naturel. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça se passe? Enfin, ça change finalement complètement la donne par rapport à ce à quoi tu t'étais préparée.
Lors de la conversation, le médecin me propose de tester, par contre, quelque chose de différent et de tester un transfert sur un cycle naturel, c'est-à-dire sans stimulation de l'endomètre, en se basant vraiment sur la préparation endométriale naturelle, on va dire. Donc le principe, c'est d'observer s'il y a bien un follicule qui se développe, si l'endomètre se développe naturellement, correctement, si les hormones sont ok, et de déclencher l'ovulation au moment où on estime qu'elle va se produire naturellement, et de faire le transfert dans les jours qui suivent, en mettant quand même un peu de progestérone en plus, mais sinon il n'y a pas de préparation en oestrogène. Donc du coup, je prends rendez-vous avec la gynéco en France pour qu'elle regarde si d'un point de vue pour elle, ça lui semble d'un point de vue clinique envisageable. Et alors là, grosse surprise, c'est qu'au moment où elle me fait l'écho, je suis en pleine ovulation, endomètre tip top, super follicule, l'hormone parfaite. Donc elle me dit, c'est dommage, là ça aurait été le cycle parfait pour le faire sur cycle naturel. Et du coup, comme tous les voyants sont verts, elle et le médecin en Espagne disent, ok, on tente sur le prochain cycle, en cycle naturel. Sauf que prochain cycle, en fait, il se déclenche pas du tout. Le temps passe après les règles et en fait, l'endomètre n'épaissit pas, il n'y a pas de follicule, voilà. Donc, du coup, on repart sur un cycle artificiel. La gynéco me dit que mon insuffisance ovarienne est vraiment trop prononcée pour que ce soit jouable. Même s'il y a eu une ovulation de ce cycle précédent de belle qualité, c'est trop aléatoire, on va dire. Voilà, ça c'est un petit coup parce que au moral, parce que le fait d'avoir eu un joli cycle entre guillemets m'avait fait un petit peu reprendre espoir. Et là, de se rendre compte qu'en fait ça marche pas, voilà, c'est un petit peu plombant. Et puis en plus, il faut de toute façon que j'attende le retour des règles pour enclencher même un cycle artificiel. Et vu que ça se passe pas super bien, bah, du coup, ça décale d'autant le prochain transfert.
D'accord. Donc reprise du coup d'un cycle médicalisé avec donc les embryons vitrifiés de la seconde donneuse, c'est ça? Est-ce que tu peux me raconter du coup ce nouveau transfert? Et puis je pense notamment, tu avais eu des doutes sur la femme qui l'avait réalisé la fois précédente. Comment ça s'est passé cette fois-ci? Et de mémoire, tu as travaillé avec des professionnels de certaines médecines, on appelle ça alternative. Je pense notamment à l'acupuncture. Tu peux nous raconter un peu?
Voilà, reprise sur un cycle artificiel avec donc le Provames pour stimuler l'endomètre. Donc voilà, tous les contrôles en France se passent bien, l'endomètre pousse bien, les hormones sont OK. Donc voilà, mi-mai, on part pour Barcelone. Et il se trouve que ça tombe pile sur le week-end de l'Ascension. Donc du coup, ben, on a le temps. Donc on arrive, si je me souviens bien, la veille du transfert, assez tôt dans la matinée. Et puis cette fois-ci, on décide de rester un peu plus. On repart pas le lendemain du transfert, mais le surlendemain. En janvier, j'avais un peu eu l'impression de courir le lendemain. Et du coup, là, comme on avait le temps, on s'est dit, voilà, autant en profiter. Retour à la clinique le jour du transfert. Cette fois-ci, c'est le médecin français qui nous suit, qui réalise le transfert. Et je le sens beaucoup mieux, en fait. Je me sens plus en confiance. Le fait de pouvoir vraiment échanger de façon fluide aussi, ça aide, je trouve. Lui nous met en confiance, il parle beaucoup. Et voilà, bah, le transfert se passe très bien, donc de deux embryons de blasto de très bonne qualité. Et donc après, bah, voilà, on ressort. Alors la différence, cette fois-ci, j'avais déjà fait des séances d'acupuncture, mais seulement le jour du transfert, juste avant et juste après. Dans une clinique à Barcelone qui m'avait été recommandée par le biais de l'association Maya, donc un acupuncteur français lui aussi, qui s'est un petit peu spécialisé là-dedans. Et ça m'avait fait beaucoup de bien au mois de janvier, mais toutefois lui m'avait dit, en m'examinant, en me posant des questions, bah, d'une part il m'avait recommandé d'en faire en France, et d'autre part il m'avait dit quand même, vous êtes, avant le transfert, il m'avait dit vous êtes super stressé, et c'est pas très bon en général. Donc cette fois-ci, au mois de mai là, et ben dans la préparation, dans les 5 semaines qui ont précédé le transfert, j'ai vu un acupuncteur à Lyon, qui par ailleurs m'a également prescrit des plantes chinoises, absolument infâmes à boire. Mais il faut ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour améliorer notamment tout ce qui est circulation, vascularisation, etc. Et donc, en plus, j'avais une à deux séances d'acupuncture par semaine. Et puis à Barcelone, au lieu d'en faire seulement deux le jour du transfert, une avant et une après le transfert, cette fois-ci, j'en ai fait une la veille aussi. Vraiment, cette fois-ci, pas pour préparer, dans le sens de préparer le corps à recevoir l'embryon, mais vraiment pour juste me détendre, pour, on va dire, une séance anti-stress. Et vraiment, mais ça m'a fait un bien de dingue. Je me suis même endormie pendant la séance. Et ce type est absolument génial. Vraiment, c'est un acupuncteur assez fabuleux. Donc voilà pour la préparation. Et vraiment, pour moi, l'acupuncture, c'est un truc que je conseille vraiment plus. Je trouve que ça aide beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé.
D'accord. Donc, du coup, ce nouveau transfert se passe. Est-ce que tu reprends le boulot? Qu'est-ce que tu fais différemment, si tu fais quelque chose de différent?
Donc, après ces quelques jours à Barcelone, on rentre à Lyon. Et cette fois-ci, j'ai posé une semaine de congé. Voilà, j'ai voulu être vraiment calme, détendue. Il se trouve que je travaille à 50 et quelques kilomètres de la maison, donc ça fait beaucoup de transport. Et là, vraiment, je me suis dit non, on y va le plus calmement possible. Ça ne veut pas dire que j'ai rien fait pendant cette semaine-là. Je me suis beaucoup promenée, notamment. Mais voilà, je voulais pas me culpabiliser après avec des « oh, peut-être que si ». Voilà.
Bon, super. Et alors, du coup, l'attente, comment ça se passe?
Et l'attente se passe assez sereinement, je dirais. Alors, je sais pas si c'est un contre-coup toujours de l'acupuncture. Mais c'est vraiment... Ouais, je suis plutôt détendue. Prudente quand même, parce que voilà, on sait que l'échec est tout à fait possible, mais pas trop trop stressé. Je ne craque pas de test pipi, et on fait la prise de sang un samedi matin. C'est un peu galère de trouver un labo qui veuille bien la faire le samedi matin et surtout nous donner les résultats le samedi et pas le lundi parce que ça, on serait mort. Voilà, donc on l'a fait et puis quand on est allé chercher les résultats, là le type me tend l'enveloppe en me disant bon ben vous verrez avec votre médecin pour analyser. Et là je me dis oh purée, ça doit être un taux bâtard et du coup il veut pas se prononcer et tout. Et puis donc on sort même des fébriles à un point, mais et j'ouvre l'enveloppe et là je vois écrit 99. Donc mais le soulagement, c'était mais incroyable, vraiment. Je crois que je me souviendrai de ce moment toute ma vie. On est tombé dans les bras l'un de l'autre, on a pleuré, on était en pleine rue, on pleurait comme des. J'insultais le type du labo en disant mais pourquoi il m'a dit ça. Et mais vraiment voilà, on était sur notre petit nuage. Et c'est drôle parce que il y a deux personnes différentes, ma maman et puis une amie, qui dans les jours qui ont suivi m'ont dit que ça se voyait sur mon visage, enfin qu'il y avait un truc qui s'était détendu d'un coup sur mon visage que je portais, une espèce de masque d'angoisse ou je sais pas, et que quand je leur ai annoncé que j'étais enceinte, même si c'était tout début, elles m'ont dit bah ça se voit, il y a quelque chose vraiment de super chouette dans ton visage qui le dit.
Et qui est-ce qui est arrivé à la fin? Ben, c'est une petite fille.
Ouais.
Qui s'appelle Adélie.
Ah, oh, mignon.
Puis voilà. Non, ça c'est vraiment, bon, ça c'est compliqué vraiment à la toute fin, puisque j'ai fait un début de préclampsie.
Ah, c'est dur ça, ouais.
J'ai dû être déclenchée, ouais. Et puis ça n'a pas marché, donc c'est arrêté.
Ah, mince.
Mais bon, c'était à 37 semaines.
Ouais. Donc bébé avait eu le temps quand même d'être bien au chaud assez longtemps.
Ouais, voilà.
Voilà, la préclampsie, il faut pas rigoler avec
voilà.
Ça.
Non, c'est clair. Et du coup, j'ai voilà, mais une grossesse globalement, on va dire les trois premiers mois un peu stressant parce que
ouais.
Parce qu'on a peur que ça s'arrête, mais après une fois l'écho passé, plutôt cool. Enfin voilà, sans désagrément, j'ai pas eu de nausées, donc c'était cool.
Génial, bah, écoute, félicitations. Et donc, quelques années plus tard, vous avez décidé d'avoir un deuxième petit bébé.
Et ouais, et après deuxième, donc on n'avait plus plus d'embryon. Impossible de faire appel à la même donneuse parce que, en fait, il se trouve que j'avais eu une donneuse assez âgée. Donc, il a fallu en chercher une autre. Donc, ça voulait dire que, voilà, deux donneuses différentes et que donc, si on s'arrête à la génétique, ça voulait dire deux enfants qui n'avaient pas le
même patrimoine, exactement.
Patrimoine, j'ai dit. Mais alors, ça me passait
ouais. Complètement au-dessus de la tête. C'est presque un détail à ce stade-là.
voilà, c'est ça, c'est clair. Et en fait, la deuxième fois, c'est quand même vachement plus facile parce que bon, d'abord, il y a moins la pression parce qu'on a déjà un bébé. Et que, même si on a très envie d'un deuxième, on se dit que si ça ne marche pas, c'est quand même moins grave. Quoi. Et puis, on sait comment ça se passe, surtout. Et voilà, donc on est reparti dans l'attente de la donneuse.
Ok.
Puis voilà, fécondation, transfert, qui n'a pas fonctionné non plus. Et j'avais pas fait mes petits trucs d'acupuncture, voilà.
Médecine douce.
D'aller voir l'ostéo avant. Et du coup, voilà, j'étais un peu speed au boulot à ce moment-là. On déménageait, on venait d'acheter un appart.
Ouais, donc t'avais.
On n'avait pas vraiment, en fait. Et en fait, rétrospectivement, après, je me suis dit que j'étais pas prête, ni dans ma tête, ni dans mon corps, ni Et donc, ça n'a pas marché, le premier transfert. Alors, sachant que cette fois-ci, par contre, on en avait mis qu'un.
Mm-hmm. que... On déconne pas.
Et alors là, le truc de dingue, pour le premier transfert, quand le biologiste est arrivé et qu'il nous a dit... Donc, on avait eu 10 embryons à J1 après la fécondation. 10 embryons fécondés. Et quand on est arrivé à J5, donc au jour du transfert, il y en avait toujours 10. Alors, ils nous ont dit, bon, il y en a toujours 10, mais donc là, on vous en transfère un. Et on en a vitrifié 6.
OK.
Et il y en a 3 qu'on garde encore en observation. On sait pas trop comment ils vont les... On va voir comment ils évoluent. Et donc, voilà. Donc, premier transfert n'a pas fonctionné. C'était fin juillet 2000. Perdu
17
2017 et on est retourné fin octobre et cette fois-ci pour des raisons d'organisation pratique on a dû y aller avec Adélie donc du coup mon chéri n'a pas pu assister au transfert parce que les enfants sont quand même pas admis dans
ouais bien sûr
mais en même temps c'était cool d'être à Barcelone avec elle aussi de faire le truc en famille ouais. Un peu. Même si ça me réjouissait pas d'être toute seule dans la salle de transfert.
J'imagine. Mais bon.
Et puis, truc aussi, donc cette fois-ci, j'avais refait toute ma petite préparation, acupuncture, plante dégueulasse, acupuncture sur place, ostéopathe en début de préparation, et tout. Et puis, j'avais redit que je voulais que ce soit lui, le docteur, qui fasse le transfert. Il n'avait pas été le cas non plus en juillet. Alors, je sais pas s'il a des doigts magiques, ça a marché.
Yeah!
Alors qu'avec les autres docteurs, ça marchait pas. Je sais pas, c'est destin. Et voilà. Donc là, par contre, j'ai craqué sur le test de grossesse avant la prise de sang. Parce que vraiment, je me sentais...
Alors, pour ensuite cette deuxième grossesse, alors, j'ai pas senti que j'étais enceinte. Enfin, jusqu'à... J'ai 8, 9, je sais plus. J'ai pas senti rien de spécial. Je faisais assez attention. Et forcément, j'étais peut-être plus à l'écoute de mon corps. Et c'est vraiment... Je me suis dit, c'était un dimanche. Et j'avais prévu de faire la prise de sang le lundi matin. Et j'étais d'un coup mais fatiguée, alors qu'on rentrait juste de vacances. On avait enchaîné le transfert avec des vacances. Et je me suis dit c'est quand même bizarre. Et en fait le matin dans un supermarché j'ai acheté un test de grossesse. Et en rentrant à la maison je l'ai pas fait tout de suite. C'est dans l'après-midi. Si je me souviens bien c'est en début d'après. J'ai fait une sieste en même temps que mon bébé. Et en sortant de la sieste j'ai pas tenu, je suis allée faire pipi. Sur le test et il y a un beau plus qui s'est affiché donc voilà c'est comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte avant la prise de sang première fois donc que j'ai craqué et donc on a confirmé ce résultat par la prise de sang le lundi avec un très très joli taux voilà, je me souviens plus de ma première grossesse que de la deuxième je crois que c'était un taux autour de 300-400 je sais plus donc voilà qui a très très bien évolué qui a bien augmenté assez vite et très régulièrement par contre j'ai eu un gros épisode de saignement un tout petit peu avant 6 semaines je crois avant 6 c'est ça je suis allée aux urgences de la maternité où ils m'ont déjà d'une part refait un dosage et de bêta HCG et puis après un bon moment d'attente fait une écho et bon le dosage était très très bon j'étais à 24 000 ou je sais plus combien et au niveau de l'écho c'était un petit peu tôt mais on voyait quand même un petit quelque chose on voyait bien le sac la vésicule vitelline, on voyait pas encore vraiment l'embryon ni le cœur puisque c'était un peu tôt. Donc voilà, j'étais un peu rassurée. Et puis j'ai eu une écho quelques jours plus tard chez ma gynéco de PMA où là on voyait bien le cœur battre. Donc vraiment rassurée. Et ensuite la grossesse s'est bien passée. J'ai été un tout petit peu plus suivie au niveau échographique parce que comme il y avait eu un petit retard de croissance pour la première. Du coup, ils ont surtout à partir du cinquième mois bien vérifié qu'il n'y avait pas de souci. Sinon, ça s'est très très bien passé, si ce n'est que bébé est resté en siège jusqu'à très très tard. Ce qui compromettait forcément un accouchement par voie basse puisque j'avais accouché par césarienne pour la première. Donc voilà, ça m'a un petit peu embêtée puisque j'avais très envie d'avoir un accouchement par voie basse. Du coup, j'ai fait pas mal d'acupuncture encore pour l'aider à se retourner. Et puis finalement, elle s'est retournée. Enfin, elle, le bébé à ce moment-là, on savait pas si c'était elle.
D'accord, et alors comment s'est passé ton accouchement du coup ?
C'est à 39 semaines et 2 jours. J'ai rompu la poche des os pendant la nuit à 4h du matin. Donc voilà, j'ai réveillé mon chéri, on a appelé ma maman qui est venue, donc le temps qu'elle arrive, il a bien fallu 1 heure pour s'occuper d'Adélie et puis ensuite on est parti à la maternité, donc on habitait à 100 mètres, 200 mètres peut-être, de la maternité, donc on est allé à pied. C'était rigolo, dans le petit matin, comme ça. Voilà, le travail, j'avais pas de contraction, hein. Donc ils ont juste vérifié que c'était bien du liquide amniotique que je perdais, et ensuite, ils m'ont mis dans une salle de pré-travail, et les contractions ont commencé assez tard. J'avais rompu vers 4h du matin, et je crois que ça a commencé vers 13h, sachant qu'il m'avait dit que si à 14h il se passait rien, probablement que j'allais avoir une césarienne puisqu'ils n'allaient pas le tenter un long travail sur un utérus cicatriciel. Et donc le travail s'est mis en route, donc on m'a monté en salle d'accouchement. Mais en fait, bon, j'ai eu très vite des contractions bien bien douloureuses. On m'a posé la péri et j'étais à 3 cm je crois. Ça n'a pas bougé. En fait, le bébé descendait pas, le col ne s'ouvrait pas. Et donc, à 19h, ils ont décidé de faire une deuxième césarienne. Et voilà, la césarienne s'est bien passée, même si je l'ai moins bien vécue que la première. Et Lison est arrivée. Donc, une deuxième petite fille. On savait pas, donc c'était une surprise, mais on était très très contents. On n'avait pas de préférence spécialement. Autant pour la première, on était vraiment ravis d'avoir une fille. Là, on s'en fichait un peu, mais on était quand même super contents. Et puis, c'est toujours une sacrée découverte de voir son bébé comme ça qui arrive.
Ah, mais tu m'étonnes. Déjà que c'est une sacrée découverte tout court, mais en plus, quand tu ne sais pas qui est-ce qui arrive, si je puis dire, ça doit être sacrément fort. En tout cas, c'est un super happy ending. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Si tu avais, maintenant que tu as pris du recul sur tout ça, si tu avais un conseil à donner à toi-même en début de parcours, ce serait quoi ?
La première chose, c'est d'apprendre à gérer la patience. Faut savoir faire preuve de patience. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile dans le parcours. Ces moments d'attente parfois interminables, puisque ça dépend pas de nous, ça dépend un peu de notre corps, ça dépend beaucoup des médecins, ça dépend beaucoup des autres finalement, et je trouve que c'est de pas avoir de prise là-dessus, c'est pour moi c'était très très compliqué. S'entourer de gens bienveillants évidemment, savoir trouver toquer aux bonnes portes quand on a besoin d'aide. Moi, sur la période difficile entre le premier transfert qui avait été annulé et puis le deuxième, le vrai premier transfert qui a eu lieu, donc 8 mois après, j'ai eu un moment de grosse colère quand on m'a dit qu'il fallait m'opérer, m'enlever ce kyste, etc., repasser sur le billard. J'en pouvais plus. Et j'ai vu une psy du centre de PMA où j'étais suivie. Je l'ai vu qu'une fois, mais ça m'a fait vachement bien parce que déjà, elle m'a dit que j'avais toutes les raisons d'être en colère et que c'était bien légitime et naturel. Et elle m'a dit, mais exprimez-la votre colère, je sais pas, achetez-vous un punching ball, trouvez une salle de boxe, tapez sur quelque chose, allez crier dans la forêt. Mais c'est normal, c'est naturel. Donc ça m'a fait du bien. Et voilà, comme je disais précédemment, l'acupuncture, vraiment, c'est quelque chose que je recommande aussi beaucoup. Et je regrette de ne pas en avoir fait plus tôt et de ne pas en avoir fait plus aussi. Après, il faut trouver les bons praticiens. Mais moi, c'est vraiment une médecine qui me détend beaucoup. Et puis, l'autre chose que j'ai faite sur les 2 tentatives qui ont marché, c'est un accompagnement d'auto-hypnose avec des fichiers MP3, accompagnement à la FIV ou quelque chose comme ça. Et y a un fichier qui est pour le moment de préparation, on va dire, avant le transfert, le moment qui précède le transfert. Et donc, il faut écouter dans ces semaines ou ces quelques jours qui précèdent le transfert. Et puis, un fichier pour l'après-transfert. Donc, moi, bon, c'est vrai qu'après les prises de sang positives, j'ai arrêté. Je sais qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait plus longtemps. Mais pareil, ça avait un pouvoir assez... D'abord, ça m'endormait. Donc, je le faisais souvent le soir avant de me coucher. Et je pense que ça me berçait de trucs assez positifs, quoi. Donc, ça aussi, je recommande ces CD d'auto-hypnose. Je crois que c'est Hypnalthérapie, la boîte qui fait ça.
D'accord, super, merci beaucoup. Tu me parles aussi donc de ton parcours qui s'est fait en Espagne. Est-ce que tu peux me parler de ton remboursement par la Sécu ? Comment ça s'est passé ? J'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai que parfois les mutuelles peuvent aussi prendre ça en charge, en plus de la Sécu ?
Oui, la bonne surprise sur ces deux tentatives, ça a été donc la prise en charge, alors d'une part par la Sécu, donc pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge quand on va faire un don d'ovocytes à l'étranger, il faut remplir tout un dossier au préalable pour une demande de prise en charge de soins à l'étranger. Donc dans le dossier, il y a un courrier du médecin qui explique les raisons pour lesquelles on doit se rendre à l'étranger pour bénéficier de ces soins, et une lettre de motivation écrite par le couple. Et puis le devis de la clinique et les résultats des examens qui montrent la nécessité médicale à avoir recours à ce traitement. Donc en fait ça part du principe que les citoyens européens doivent avoir une égalité de soins sur tout le territoire européen. Et du coup l'argument en gros c'est en France il y a un tel délai d'attente pour obtenir un don d'ovocytes que c'est naturel quelque part de se tourner vers un pays où les délais sont plus raisonnables et plus courts. Donc après c'est pas un remboursement intégral, loin de là, hein, c'est un forfait en fait qui est autour de 1 500 euros et qui est obtenu une fois qu'on a fait le transfert et renvoyé les preuves de paiement, etc. Il rembourse également les frais de transport de madame uniquement. Hein, on sait pas pourquoi. C'est un peu marche sur la tête, mais voilà. Billet d'avion, taxi, s'il y a eu taxi, train, parking, enfin n'importe quoi, voiture si on est allé en voiture. Et la très bonne surprise que j'ai eue, c'est après le premier transfert, la première tentative, c'est que la Sécu a transmis le dossier à la mutuelle, comme à chaque fois qu'il y a une dépense de sécu, quoi. Et en fait un jour, j'ai découvert un virement de plus de 5000 euros sur mon compte. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est la mutuelle qui a pris en charge à hauteur de, je crois, 5 300 ou 5 400 euros. Donc ça, plus la Sécu, ça nous a quasiment payé l'intégralité de la tentative. Donc c'est quand même un super bon plan. Alors, bon, on a du bol. J'ai une très bonne mutuelle. Toutes les mutuelles ne prennent pas ce genre de choses en charge, mais ça vaut le coup de se renseigner, du coup.
Ouais, carrément, c'est hyper bon à savoir. Et c'est vrai que toutes les femmes, tous les couples qui viennent moi m'en parler, en tout cas de cette envie ou ce besoin de devoir aller avoir recours aux dons à l'étranger, le facteur bloquant, c'est très souvent les finances. Donc effectivement, c'est excellent à savoir. Merci beaucoup. Tu me parlais à un moment de l'association Maya et de leur forum de... Comment, en fait, finalement, tu as réussi à trouver des encouragements, des informations, le pouvoir de cette communauté? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, voir comment ça t'a aidé, comment tu les as trouvés, d'ailleurs?
Alors, on a adhéré à l'association Maya au début du parcours. On avait déjà choisi la clinique. Mais on a adhéré au départ pour une raison toute simple, c'est que ça nous permettait d'avoir une petite réduction à la clinique. C'est pas énorme, mais c'est de l'ordre de 5%, je crois, de réduction. Donc, c'est pas non plus... négligeable. En fait, j'ai découvert un forum assez actif et assez intéressant. Alors, que je conseille vraiment, déjà pour faire un choix sur la clinique, parce que du coup, il y a énormément de gens qui font des dons d'ovocytes sur ce forum et qui vont en Espagne, dans différentes cliniques, puisqu'il y en a plein, en République tchèque, beaucoup aussi, en Grèce, enfin bref. Et du coup, ça permet un petit peu de voir un peu les tarifs pratiqués, les méthodes, les soins, les à côté, type médecine douce ou voilà, comme l'acupuncture dont je parlais, le suivi des médecins, comment ça marche, les protocoles, etc. Que voilà, puis par ailleurs, moi ça m'a fait énormément de bien d'échanger avec ces personnes, alors essentiellement des femmes, parce qu'on est toutes dans le même bateau, hein, on va dire, dans la même galère, et que on s'encourage et qu'il y avait sur ce forum des personnes qui avaient malheureusement eu des parcours ultra ultra longs et qui étaient des puits de science, quoi, sur qui savaient décortiquer une analyse de sang, qui savaient analyser tout, les résultats en fonction du nombre d'embryons obtenus et tout, et du coup ben voilà, il y avait toujours une écoute dans cet endroit. Bon, je pense qu'aujourd'hui non, pas que c'était il y a très longtemps, mais on trouve sur Instagram aussi ce genre d'écoute, mais là c'est vrai que y a, et puis bon, le côté que c'est un forum privé, donc complètement anonyme, du coup. Par ailleurs, ils peuvent aider aussi sur là ou du côté de l'association, pas du forum, sur la constitution du dossier de sécu. Donc ça peut être aussi une aide, et puis ils peuvent aussi faire l'intermédiaire avec les cliniques si jamais on a un souci. Moi je sais qu'à un moment on était plusieurs à avoir fait remonter des difficultés de communication avec la clinique, et du coup la secrétaire de l'association les avait contactés, voilà. Et puis bah l'association se charge d'obtenir les meilleurs tarifs possibles, de négocier voilà des tarifs plus avantageux, et aussi d'organiser des rencontres avec les médecins des cliniques en France, dans différentes villes françaises, tout au long de l'année. Donc, avant de se décider sur une clinique, ça peut être aussi l'occasion, d'aller rencontrer la clinique, entre guillemets, mais sans en faire tous les kilomètres, et discuter de son dossier, et de voir un peu si ça nous correspond, si on veut aller là, ou plutôt dans une autre clinique. Mais voilà, c'est une association qui, bon, qui a ses défauts aussi, hein. Je suis plus adhérente actuellement parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait qui m'ont un petit peu déplu, mais qui malgré tout m'a beaucoup apporté, en tout cas sur le temps où j'étais. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact, on a un groupe WhatsApp avec 7-8 copines qui sont devenues mamans la même année que moi, et avec qui on a beaucoup échangé pendant nos grossesses, et avant, pendant, et puis après, sur les premiers mois et les premières années de nos enfants.
Très bien. Et alors, une dernière question. Est-ce que vous envisagez de parler à vos filles de leur histoire ? Est-ce que vous en avez parlé aussi à votre entourage, d'ailleurs ?
Alors, oui, on parle de leur histoire aux filles, depuis toujours, depuis in utero. On leur a raconté comment elles étaient venues, notre histoire à tous les deux, et leur histoire à elles, si particulière. Depuis qu'elles sont nées, on en parle aussi, pas forcément tous les jours, évidemment. On a écrit, entre guillemets, on a fabriqué un livre qui raconte leur histoire à toutes les deux, sur modèle d'un album photo, comme on trouve partout, mais vraiment sur leur histoire à elles, donc qui peut être une base quand elles auront des questions un peu plus précises. Il y a très peu de bouquins qui traitent vraiment du don d'ovocytes, donc et qui soient avec les bons mots, je trouve. Il y a un bouquin par exemple qui appelle la donneuse la fée. Pour moi c'est pas une fée, il y a pas de magie, c'est de la médecine. C'est une personne super qui a fait un don qui m'a permis de devenir maman, mais c'est pas une fée. Et sur un autre bouquin, j'avais vu aussi à un moment écrit la deuxième maman ou quelque chose comme ça. Donc ça me plaisait pas du tout. Donc du coup, comme on trouvait pas ce qu'on voulait, ben on l'a fabriqué. Mais évidemment qu'on veut pas entretenir un quelconque secret à nos filles. Après, concernant l'entourage, nos familles sont au courant, nos parents, nos frères et sœurs, quelques oncles et tantes. On a des amis qui sont au courant, pas tous. Voilà, on le crie pas sur les toits. Moi, j'en parle aujourd'hui essentiellement quand j'ai l'impression que ça pourrait aider quelqu'un ou un couple, quand je les sens en galère, quand je perçois qu'il y a des difficultés, voilà, pour les rassurer, leur dire que ça existe, que ça peut marcher. Et puis voilà, ben il y a ceux qui sont au courant, qui nous ont soutenus un peu tout au long du parcours. Puis après, ben on verra comment. Je sais pas du tout, là, c'est sûr qu'Adélie va rentrer dans un âge où où elle peut en parler. C'est pas le cas pour l'instant, enfin pas à ma connaissance, mais et donc on verra, voilà, si elle souhaite le dire, si elle le partage, si elle le partage pas. Après, évidemment, les médecins qui suivent les enfants sont au courant aussi, puisque c'est important qu'ils sachent. Et voilà, donc on n'en fait pas un tabou. Après, on le crie pas non plus sur les toits plus que ça. Et puis, bah, c'est vrai que par contre, dans nos familles, par exemple, on en parle quasiment plus jamais. Je pense que les gens ont presque oublié, enfin, c'est pas qu'ils ont oublié, mais on devient vraiment tellement la maman, on est tellement la maman qu'il n'y a pas tellement de raison d'en parler. Puis ce qui est drôle, c'est tous les gens qui cherchent les ressemblances aussi, et qui les voient. Et même des gens qui savent que c'est un don d'ovocytes et qui disent que mes filles me ressemblent, c'est rigolo. Et comme quoi l'épigénétique, c'est bien quelque chose qui existe et qui fonctionne.
Écoute, c'est une belle conclusion. Je te dis vraiment un immense merci d'avoir pris le temps de partager ton histoire. Je te remercie voilà pour le recul que tu as sur toute cette situation, sur ces deux grossesses et sur le don d'ovocytes en général. Je pense que c'est super intéressant qu'effectivement on n'en parle pas assez. Donc j'espère que ce podcast pourra aider certaines et certains qui se posent encore beaucoup de questions. Sur ce, Julie, je te dis encore un immense merci. Je te souhaite une très très bonne continuation.
Eh bien, merci à toi pour ton écoute. À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alorscestpourbientôtpodcast et pour témoigner, direction le site internet alorscestpourbientôtpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.